Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'est posé la question, est-ce que les machines peuvent remplacer l'humain ? Un peu Terminator, c'est vrai, mais en vérité, on n'est pas si loin. On sait tous que par rapport aux années 50, nos sociétés sont maintenant entourées de technologies et qu'avec le temps, on développe de plus en plus d'appareils autonomes où l'humain n'est plus forcément nécessaire lors de l'utilisation. Que ce soit nos téléphones, nos cuisines ou même nos voitures, des éléments de technologie ont été intégrés à l'ensemble de nos appareils du quotidien. Même dans les usines, il y a de plus en plus d'automatisation qui rendent le travail des hommes moins pénible ou bien parfois permettent de supprimer certains emplois. Comme nous le savons tous, ce qui est le plus impressionnant, c'est ce qu'on pourrait croire qu'ils remplacent principalement des métiers physiques ou en usine. Et en fait, ils sont aussi utilisés pour porter des charges lourdes. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, des postes nécessitant des hauts niveaux d'études sont eux aussi remplaçables par des machines ou des systèmes intelligents. C'est vrai qu'on les voit apparaître dans des domaines liés à l'informatique, où ils sont capables de générer des parties de programmes considérées comme étant les plus simples. Ils permettent aussi de relire des manuscrits et d'écrire des avis de potentiels lecteurs avec des pistes d'amélioration. On le retrouve aussi dans le monde de la finance, par exemple, où pour tout ce qui est de l'étude de marché, les ordinateurs étant capables de réaliser beaucoup plus de transactions qu'un humain en un temps limité. Vous me direz aussi que ce n'est pas une machine qui prépare les cartes ou bien qui calcule rapidement, qui va se retourner contre nous. Mais même si dans le domaine militaire, la technologie prend de plus en plus d'ampleur, donc ça serait peut-être possible. Que ce soit dans les drones ou les exosquelettes, on remarque la forte volonté d'utiliser la technologie moderne et même l'IA dans le domaine de l'armement. On peut donc se demander si la technologie ne sera pas responsable de la fin de l'homme, pas dans le sens de l'extinction, ne soyons pas pessimistes, mais s'ils ne sont pas capables, comme les hommes, et de faire mieux que nous.
Afin de réfléchir sur l'avenir de la technologie au sein des activités humaines, il peut être intéressant de revenir sur l'impact qu'a déjà eu la technologie sur celle-ci. Prenons l'exemple de la photographie. La première photo de l'histoire était prise en 1827, avec le sténopé. Il s'agit d'un petit trou très fin sur la paroi d'une boîte à travers lequel passe la lumière, qui crée une réaction chimique sur la paroi opposée. D'année en année, les procédés s'améliorent. L'image peut se fixer plus rapidement, réduisant ainsi le temps de pose, et l'utilisation de lentilles permet l'obtention de meilleurs résultats optiques. La plus grande révolution dans la discipline fut l'apparition de la photographie numérique. Non seulement cela coûte beaucoup moins cher, il n'y a pas de pellicule à acheter, mais elle permet de bien mieux contrôler son image. Je citerai pour l'exemple la prise de vue en RAW. C'est une manière de sauvegarder son image qui préserve beaucoup plus d'informations que ce qu'on peut observer directement à l'image. Grâce à cela, les photographes peuvent prendre du temps pour contrôler les lumières et les couleurs dans leurs photos. On pourra aussi mentionner l'autofocus, qui permet d'obtenir une image nette sans avoir à se soucier de le faire manuellement. La détection de visage, qui facilite la mise en avant de sujets humains sur une image, en réglant le focus et l'exposition, de sorte à ce qu'on voit le sujet au mieux. Ou encore la stabilisation, qui permet d'avoir des images nettes, même en étant extrêmement zoomées. Au final, toutes ces avancées ont un seul but, faciliter la technique photographique afin de laisser le photographe se concentrer sur ses choix artistiques. On peut aussi noter l'utilisation des téléphones portables comme appareil photo. Malgré les limitations techniques inhérentes aux téléphones portables, principalement la miniaturisation, les algorithmes de post-traitement des photos permettent d'obtenir facilement des résultats très convaincants. En particulier, il est très difficile d'obtenir naturellement du bokeh avec un téléphone. Le bokeh, c'est ce joli flou d'arrière-plan qu'on voit souvent sur les photos. Cela est dû au fait que la lentille des appareils intégrés au téléphone est petite, contrairement aux appareils photo. Mais depuis quelques années, certains téléphones permettent de recréer artificiellement ce bokeh via des algorithmes de traitement d'image, dont certains utilisent l'IA. Ainsi, la technologie a rendu la photographie grand public, là où elle était réservée à des amateurs il n'y a pas si longtemps. Je terminerai en mentionnant l'une des dernières avancées dans le domaine. Depuis quelques semaines, Photoshop permet d'utiliser des IA génératrices d'images afin de retoucher les photos. Grâce à cette technologie, on peut effacer des parties d'une image en quelques secondes, là où on pouvait y passer plusieurs heures par le passé. Dans les domaines artistiques, les avancées technologiques remplacent l'humain sur certaines tâches, justement pour accroître et décupler leurs possibilités.
Mais aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de la photographie qui est rendue plus simple grâce à de nouvelles méthodes étant améliorables par l'homme. De plus en plus, on voit apparaître des machines faisant appel au deep learning. Cela revient à ce qu'elles apprennent d'elles-mêmes comme si elles avaient une mémoire. Comme on n'est pas des professionnels du domaine, on a préféré leur demander directement comment ils le définiraient.
Retenir, c'est que l'apprentissage profond, c'est une méthode d'apprentissage automatique. Donc l'idée, c'est que la machine va elle-même apprendre comment réaliser une tâche qu'on va lui donner. Par exemple, si on parle de reconnaissance d'image, le système va automatiquement pouvoir classifier l'image et dire ça c'est un chat, ça c'est un chien, ça c'est un simple objet, etc. Si on lui donne une phrase par exemple donnée, le système va automatiquement traduire la phrase et il l'aura appris tout seul à la traduire. Donc. Alors l'idée c'est qu'un système apprenant du coup a beaucoup plus de capacité puisqu'il l'apprend par lui-même, donc il n'est pas limité aux simples règles qu'on lui donne. Il va avoir les règles qu'on lui donne, les limites qu'on va lui mettre, mais dans ce champ des possibles, il va pouvoir trouver lui-même des nouvelles solutions à explorer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc, il y a une définition que j'aime beaucoup, qui est dans le livre Deep Learning de Ian Goodfellow, que je vous recommande. Il est en anglais, mais c'est vraiment un très très bon livre. Donc, solving the tasks that are easy for people to perform but hard for people to describe formally. Ça, c'est le deep learning. C'est grosso modo, pour une traduction linéaire, c'est résoudre les tâches faciles à faire pour les gens, mais qui sont vraiment difficiles à décrire formellement. C'est-à-dire que si je vous demande de décrire pourquoi, par exemple, pendant le jeu des échecs, si je vous demande de décrire pourquoi vous avez joué à cet endroit-là, il y a énormément de paramètres qui vont être rentrés en jeu. Il n'y a pas simplement le fait que ça c'est dans telle position, ça c'est telle position. Le pourquoi vous jouez de cette manière, il se régit par énormément de règles. Donc vous ne pouvez pas simplement décrire le pourquoi. Et quand on est dans ces situations-là, ça devient compliqué de modéliser le système par un système de règles.
Et on comprend donc que l'objectif est effectivement de rendre les machines plus autonomes et indépendantes de l'homme. En ne leur imposant que peu de règles, mais en leur laissant la possibilité de tester et de trouver d'elles-mêmes les solutions qui sont les plus efficaces, selon leur domaine d'activité, on peut se poser la question de leur capacité à nous surpasser.
En effet, on est en droit de se demander jusqu'où l'IA peut aller. Mais si on la laisse apprendre et se corriger à la manière d'un humain, quelles sont ses limites ? En a-t-elle ? Ou bien doit-on prendre la décision de lui en imposer des limites, quitte à limiter ses performances ? Il y a aussi un problème éthique qui se pose lorsqu'on réfléchit à la limitation de ces mêmes capacités. Est-ce qu'une IA, si elle a appris assez d'informations, peut représenter un pays en devenant président ? Ou bien jugeons-nous que certains métiers nécessitent une forme d'humanité pour pouvoir être réalisés ?
Dans ce cas, comment classons-nous les métiers jugés comme remplaçables ? Est-ce que l'on juge certains métiers comme déshumanisants ? De plus, il est possible de rendre une IA ou un androïde plus humain. Le deep learning, selon certains experts, est même capable de permettre à l'ordinateur de développer des pseudo-émotions et des pseudo-consciences. Que ce soit de l'empathie, de la joie ou bien de la tristesse, c'est une pratique qui est très controversée dans le milieu et majoritairement critiquée car elle donne trop de pouvoir à la machine.
C'est vrai que dans ce cas, on ne différencie plus trop ce qui est l'humain et ce qui ne l'est pas. Aujourd'hui, on voit que certains robots, en vue de ressembler de plus en plus à des humains, font volontairement des erreurs, ou bien ils développent des tics de langage. Cela arrive parfois pour des IA ayant pour but d'assister des humains ou des personnes âgées, par exemple. Il est parfois rassurant de ne pas avoir l'impression de faire face à une machine vide d'émotions.
Et dans ce cas-là, Où place-t-on la limite? Est-il vraiment judicieux de penser que les robots peuvent nous ressembler? Cela n'accentuerait-il pas les inégalités de notre société? En effet, un androïde du nom de Sophia a acquis en 2017 la nationalité saoudienne, alors même que les femmes de ce même pays n'ont pas le droit de vote et ne peuvent pas voter et prendre des décisions politiques. Cette IA a été jugée, elle, apte à participer à la vie politique du pays. Alors, qui fixe les limites de ce que l'on considère possible à l'homme ou bien à la machine? Et s'il n'y a pas de limite, alors pourquoi avons-nous peur qu'ils prennent...
Nous allons maintenant plonger dans le monde fascinant et plus précisément de l'intelligence artificielle, de l'IA. Et nous allons parler plus précisément de son impact. Comme vous le savez, tous, les intelligences artificielles font de plus en plus partie de notre quotidien et son impact se fait ressentir dans de nombreux domaines, notamment celui de l'art où aujourd'hui elle fait polémique. Donc avant de nous intéresser plus particulièrement aux impacts et controverses de l'IA dans l'art, je vais commencer par vous donner une brève définition des IA. Donc l'intelligence artificielle, c'est un domaine de l'informatique qui va se concentrer sur la création de machines capables de simuler l'intelligence humaine. Les systèmes d'IA sont conçus pour apprendre, raisonner, percevoir et prendre des décisions, souvent en se basant sur d'énormes quantités de données. Ces systèmes peuvent être classés en deux catégories, l'IA faible et l'IA forte. L'IA faible, également appelée intelligence artificielle étroite, se concentre sur des tâches spécifiques et limitées. Elle est largement utilisée dans des domaines tels que la reconnaissance vocale, la recommandation de produits, les jeux d'échecs et même la création de contenu artistique. L'IA forte, en revanche, est une forme d'intelligence artificielle générale qui vise à égaler ou dépasser les capacités cognitives humaines dans tous les domaines. Maintenant que nous avons posé les bases, plongeons dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, l'IA dans l'art. Comment l'IA influence-t-elle la création artistique? Quelles sont les réactions suscitées par les expositions d'art générées par l'IA? Donc comme nous l'avons déjà dit, l'intelligence artificielle a envahi nos vies de nombreuses façons, et l'art ne fait pas exception. De plus en plus d'artistes explorent les possibilités créatives de l'IA pour générer des œuvres uniques et originales. Cependant, cette évolution soulève des débats et des interrogations. Faut-il considérer ces créations comme de l'art véritable, ou est-ce simplement une reproduction mécanique sans âme? Un exemple intéressant est l'exposition récente consacrée à « La finale à la perle » de Vermeer, recréée par une IA appelée Midjourney. Johannes Vermeer, un maître de la peinture du XVIIe siècle, est connu pour ses portraits réalistes et ses jeux subtils de lumière. Midjourney, l'IA qui a recréé cette œuvre, se trouve au centre de la controverse sur les IA dans l'art depuis sa création et sa mise à disposition du public, a suscité une grande controverse parmi les critiques d'art et les amateurs. Certains voient en Midjourney une véritable révolution artistique. Ils s'affirment, dans ce cas-là, que l'IA a réussi à capturer l'essence même de l'œuvre de Vermeer, reproduisant avec précision chaque détail, chaque jeu de lumière et chaque expression du visage, voire même l'améliorant. D'autres ne sont pas convaincus par l'utilisation d'une telle technologie. On peut lire des critiques telles que « c'est une insulte à l'héritage de Vermeer et aussi à tout autre artiste en activité. Venant d'un musée, c'est une vraie gifle ». L'auteur de cette critique compare ensuite l'image au monstre de Frankenstein et estime que les outils d'IA violent le droit d'auteur d'autres artistes en utilisant leurs œuvres comme base pour des images générées artificiellement et se servant de photos d'internautes. Il s'agit d'une technologie contraire à l'éthique, estime l'artiste Eva Torrent, qui œuvre pour la régulation de l'IA. Sans le travail d'artistes humains, ce programme ne pourrait tout simplement pas générer d'œuvres, a-t-elle déclaré, cité ici par le quotidien néerlandais de Volkskrant. On voit bien qu'il est ici difficile de trancher, et comme le dit si bien Boris de Munich, l'attaché de presse du Maurice Thuy, c'est une question si difficile, qu'est-ce qui est de l'art et qu'est-ce qui ne l'est pas? Donc continuons maintenant notre exploration des rôles de l'IA dans l'art, puisque au-delà de la recréation de chefs-d'œuvre artistiques comme nous venons de le voir, l'IA joue également un rôle dans la création d'œuvres entièrement nouvelles et originales. De nombreux artistes utilisent l'IA comme toute source d'inspiration, collaborant avec des algorithmes pour créer des compositions musicales, des peintures, des sculptures et même des performances artistiques. Une des principales caractéristiques de l'IA est sa capacité à analyser et à apprendre à partir de grandes quantités de données. Cela permet aux artistes de nourrir l'IA avec des exemples de différents styles artistiques, des mouvements historiques et des techniques variées. L'IA peut ensuite générer de nouvelles créations en combinant ses influences de manière innovante et surprenante. Cette collaboration entre l'IA et l'artiste humain crée une dynamique intéressante. L'IA agit comme un partenaire créatif, fournissant des idées et des suggestions, tandis que l'artiste conserve le contrôle et fait des choix esthétiques. Cela soulève des questions sur l'auteur réel de l'œuvre. Est-ce l'IA l'artiste ou une combinaison des deux? Quel est le rôle de l'humain dans ce processus créatif? Certains artistes voient l'IA comme un outil puissant qui les aide à repousser les limites de leur propre créativité. Ils embrassent les nouvelles technologies et voient en elles une opportunité de créer des œuvres uniques et innovantes. D'autres, en revanche, sont plus réticents et se méfient de l'IA, craignant qu'elle ne remplace finalement l'artiste humain. Cependant, il est important de souligner que l'IA ne peut pas remplacer complètement l'artiste humain. L'aspect émotionnel, l'expérience personnelle et la version subjective de l'artiste restent des éléments cruciaux dans la création artistique. L'IA peut être un outil puissant, mais elle ne peut pas capturer complètement l'essence de l'expérience humaine. En fin de compte, l'IA, dans l'art, ouvre de nouvelles voies créatives et suscite des débats stimulants. Elle invite à repenser notre compréhension de l'art et de la créativité. Les expositions d'art générées par l'IA, comme celle consacrée à la fille et à la perle de Vermeer par Midjourney, nous poussent à remettre en question nos notions traditionnelles de l'art et de l'authenticité. Alors, chers auditeurs, quelle est votre opinion sur l'IA dans l'art? Pensez-vous que les expositions d'art générées par l'IA peuvent être considérées comme de véritables œuvres d'art? Ou pensez-vous que l'aspect humain de la création artistique est irremplaçable?
On va maintenant vous faire écouter un exemple. Il s'agit d'une musique qui a été générée par une IA qui s'appelle Michaela. Elle est connue sur Internet car c'est un personnage fictif ayant été développé par des Américains. Et elle est aujourd'hui capable de produire ses propres contenus pour les réseaux sociaux. Cette musique a été générée il y a 5 ans et elle s'appelle Not Mine.
I'm really not the one you wanna lose. So gassed up, I'm in the club with my back. Always at my back when I don't know where you at, where you at. I can't be a sign like that. We ain't going out like that. We ain't going out like that. We ain't going out like that.
Du coup, est-ce que vous trouvez que cette musique est très différente des musiques qu'on écoute d'habitude ou bien est-ce que vous sentez le fait que ça a été généré par une IA?
Bah, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'il y a quand même beaucoup d'autotune qui est utilisée, même si je trouve ça quand même assez impressionnant le fait qu'on ait une voix aussi claire et précise et nette dans une chanson du coup générée entièrement par synthèse vocale.
Après, on trouve aussi beaucoup d'autotune hein, dans des musiques qu'on écoute au quotidien, etc., sur les radios. Donc moi, je trouve ça pas du tout flagrant, par exemple. Ou genre sur les réseaux sociaux, par exemple, aussi, on peut très bien trouver ce type de musique devant des fonds de vidéos, etc. Enfin, moi, je trouve ça pas du tout choquant.
Oui, c'est ça. Je trouve qu'on est habitué à écouter ce genre de chanson qui a été fait par des personnes connues. Donc, personnellement, effectivement, j'arrive pas à faire la différence entre ça et ce qu'on peut effectivement entendre sur nos réseaux, les applications de musique.
Non, c'est vrai que c'est pas quelque chose non plus qui est très très choquant, mais c'est ce qui peut peut-être nous donner la puce à l'oreille.
Donc maintenant... Donc maintenant, après avoir analysé l'impact de l'IA dans l'art, et donc aussi avec cette musique, nous allons étudier la place de l'IA dans la mode. Avez-vous déjà entendu parler de la première Fashion Week intégralement créée à partir de l'intelligence artificielle ? Cette Fashion Week avait la forme d'une exposition où l'on retrouvait des photos de mode extrêmement réalistes, retraçant parfaitement l'ambiance des défilés, que ce soit au niveau des décors jusqu'à même au niveau du public. Ces artistes ont travaillé avec des logiciels comme Midjourney ou bien Stable Diffusion. Plus généralement, l'intelligence artificielle offre une place à de nouveaux créateurs dans le monde de la mode. De nombreux artistes créent des vêtements à l'aide de l'IA et publient leurs créations sur les réseaux sociaux. Ces réalisations sont si réalistes que de nombreuses personnes pensent que ces pièces existent réellement et qu'elles sont même disponibles à l'achat. Donc un artiste utilisant l'IA a aussi récemment déclaré que travailler avec l'IA de cette manière est une approche très collaborative. Il faut transmettre une information, attendre l'image générée et réagir en conséquence. Même si donc, l'artiste a déjà une idée initiale, le résultat peut être totalement différent selon la façon dont l'IA y répond. Et cet artiste en question aime beaucoup le sentiment de mystère qui entoure ses outils. Donc ces modes de conception sont beaucoup remis en question. Ces technologies ne viendraient-elles pas effacer le talent de l'artiste et du créateur de mode ? L'IA peut-elle remplacer l'homme dans l'inspiration et la création de pièces de mode ?
Nous constatons une émergence croissante de l'IA dans la mode. En effet, le marché de l'IA dans la mode passe de 2019 à 2024 de 228 millions à 1,260 milliards de dollars. Il existe même des marques de mode fonctionnant intégralement à l'aide de l'IA sans contribution humaine, comme la marque Moda Rapido du commerçant Myntra. Des jeans, des t-shirts et même des chaussures sont générés par un logiciel et sont vendus en ligne. Ces systèmes sont basés sur des données provenant de diverses sources, dont des données sur les clients, des données sur les médias et des publications sur la mode. À partir de ces données, de nombreuses combinaisons de modèles sont générées et triées pour sélectionner les combinaisons qui feraient potentiellement le plus de ventes. Une fiche technique est générée par cette IA pour un style sélectionné et inclut toutes les spécifications de fabrication. L'IA serait, selon ce modèle, entièrement capable de remplacer l'homme dans la création de vêtements et de pièces de mode. Pour créer de bonnes propositions, ces algorithmes génèrent un nombre de combinaisons titanesques. Par exemple, le fonctionnement de l'algorithme du service d'IA pour la mode de Stitch Fix est le suivant. Ce service fonctionne avec trois algorithmes différents. Le premier algorithme sélectionne trois pièces de vêtements populaires. Le deuxième prend trois attributs qui peuvent être complémentaires aux vêtements choisis par le premier algorithme, avec par exemple des cols différents, des formes et longueurs de manches différentes, etc. Et le troisième algorithme apporte un peu de hasard avec des suggestions assez atypiques, ne correspondant pas forcément au style des pièces fournies par les deux algorithmes précédents, mais qui peuvent être tout de même intéressantes. Ensuite, ces algorithmes vont tester 30 000 milliards de potentielles combinaisons pour au final proposer uniquement 9 recommandations. La contribution de l'intelligence artificielle ne s'en réduit pas à la création, mais aussi à la personnalisation du parcours du client. En effet, à mesure que le e-commerce évolue, l'IA permettra des recommandations plus précises sur les produits. Par exemple, la société Perfect Corp propose des essayages en ligne développés avec l'IA. Ces solutions proposées par l'IA sont vecteurs d'opérations commerciales plus durables avec une empreinte carbone moindre. La mode est la deuxième industrie la plus polluante, avec ses émissions atteignant 10% des émissions de carbone mondiales. L'IA dans la mode apporte de nombreux autres avantages, comme par exemple une amélioration de l'efficacité de production. En effet, l'IA fournit une prévisibilité aux fabricants et peut faire correspondre totalement l'offre et la demande.
Donc l'IA dans l'industrie de la mode présente cependant aussi des inconvénients. Au-delà du reproche de créativité assistée que rencontrent ces nouveaux types de créateurs, de nombreuses personnes sont effrayées par les possibilités de perte d'emploi dans le secteur de la mode. En effet, si l'IA est tout aussi capable de créer des vêtements et pièces de collection, elle pourrait alors remplacer l'homme dans ce domaine. avec un accès à ces IA, les rôles du designer et du client viendraient au final se confondre, garantissant ainsi la satisfaction du consommateur, qui créerait alors ses propres pièces de mode et choisirait ses articles. Le professeur Yoon Kyung Lee de l'université de Busan en Corée a fait une étude à ce sujet nommée « Thinking Skills and Creativity ». Il a comparé des dessins textiles créés à partir d'une IA avec des travaux d'étudiants en design. Il a alors constaté une similarité entre les dessins, mais il a aussi relevé la singularité et l'originalité distincte des travaux produits par ces étudiants. Au lieu de remplacer l'humain, car elle n'en est pas capable, nous devrions juste appréhender cette IA comme une simple collaboration entre l'homme et la machine. En effet, étant incapable d'être créative comme un humain, elle peut être tout à fait utilisée comme une contribution à l'automatisation de certains aspects du travail de designer et ainsi augmenter l'efficacité de la conception, réduisant les coûts de fabrication. Elle peut aussi optimiser la créativité des gens.
Mais après, on peut aussi se demander, est-ce que pour le domaine de la haute couture, c'est applicable ? Parce qu'on voit que ces IA prennent des modèles existants, en fait, en s'inspirant de choses qui existent déjà et qui plaisent déjà. Mais on sait très bien que pour tout ce qui va être des marques de haute couture françaises, par exemple, comme Chanel ou Dior, lors de ces défilés, c'est des articles complètement innovants, en fait, qui sont présentés. Et est-ce que ces IA sont capables, vous pensez, de générer des produits aussi innovants que ces humains ?
Oui, mais on peut prendre l'exemple aussi de tout ce qui est habits de stars lors des apparitions télévisées qu'elles vont porter. C'est quelque chose qui sont des choses qui sont complètement différentes de ce qui existe déjà. À chaque fois, on ne retrouve pas de similarité entre quelconque vêtement. Pour moi, une création entre guillemets aussi spontanée n'est pas encore possible au jour d'aujourd'hui avec une IA.
Enfin, moi, en revanche, je pense plutôt le contraire. Enfin, par exemple, j'ai pu regarder un petit peu donc, des photos de l'exposition de la Fashion Week qui avait eu lieu le mois dernier, enfin cette année-là en tout cas. Et j'ai trouvé ça extrêmement innovant. J'avais jamais vu des habits qui ressemblaient. Et par exemple, avec l'algorithme de Stitch Fix, enfin, je trouve que cette potentialité d'innovation est parfaitement possible avec les IA.
Après, est-ce qu'on en trouve vraiment l'utilité ? Enfin, dans la mode, ce qu'on justement vient regarder pour les défilés ou autres, c'est surtout l'artisanat, en fait, la main de l'homme, voir comment il a pu faire cette pièce. Enfin, c'est ça qui rajoute, je trouve, du précieux, en fait, dans ces vêtements. Et du coup, est-ce que forcément l'IA à son rôle, on va dire, même si effectivement elle peut être performante dans ce milieu.
Oui, après bien sûr le fait qu'il faut qu'il y ait une touche entre guillemets de la part de l'homme, enfin, pour moi ça reste entre guillemets évident puisque là au jour d'aujourd'hui à mon avis le rôle de l'IA entre guillemets dans le mode de haute couture, si on peut l'appeler comme ça, ce serait surtout de donner des pistes d'idées aux designers, aux créateurs pour réfléchir ensuite à avancer sur son modèle, pas clairement pas de concevoir un vêtement à part entière.
Parce que quand on a vu l'utilisation de la technologie en général lors de la Fashion Week, on a eu les chiens automatisés qui sont apparus et la robe peinte directement sur la mannequin. La technologie n'a pas remplacé la main de l'homme puisque le chien n'est pas réellement une pièce de création qui était présentée lors du défilé, ce n'était pas un des vêtements. Et pour ce qui est de la robe peinte à même le corps, l'idée émanait justement d'un créateur de mode et c'est ça qui a été valorisé plus que la robe en elle-même, c'était le procédé choisi pour la création de la robe.
Oui, c'est ça, puis on voit bien, du coup on peut faire le parallèle entre autres colliers, on voit bien que la technologie s'invite de plus en plus dans tout ce qui est mode, de toute façon on voit bien tout ce qui est évolution des techniques de couture, etc. Même si aujourd'hui on se dirige de plus en plus vers des techniques de plus en plus extravagantes et nouvelles, l'IA a clairement son rôle à jouer là-dedans.
Et pour tout ce qui est du coup de la fast fashion et tout ça, on peut réfléchir au fait que ben c'est un peu des produits qui sont entre guillemets intemporels dans le sens où ça marche par saison et au final on se retrouve avec les mêmes articles toutes les X années et du coup dans ce cas-là, je pense que c'est vrai qu'une IA en fait est très fortement capable de remplacer l'humain dans ce genre de métier-là où même s'il y a une part de créativité dans le métier, je pense que ça n'est pas uniquement de la créativité, c'est justement une analyse de marché plus dans la dans la mode du quotidien pour porter tous les jours. Et dans ce cas-là, je pense que l'IA a fortement, fortement sa place.
Oui, clairement. Surtout quand on voit, comme tu le dis, quand on voit que la mode se répète entre guillemets par cycle, finalement, au bout d'un moment, les vêtements restent un peu les mêmes. On change quelques petits détails, les couleurs ou autres styles de couture. Une IA est clairement capable de réaliser ce travail-là. Surtout qu'en plus, comme on a pu le voir, ils sont aussi capables de réaliser des assemblages de vêtements afin d'obtenir des tenues complètes. Encore une fois, on pourra retrouver le même principe.
Du coup, maintenant, on va vous faire passer une petite musique qui s'appelle « Le diable ne s'habille plus en Prada » de Soprano.
Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé,
l'époque a changé.
Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui l'époque a changé,
l'époque a changé.
J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada, oh, le job s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé,
l'époque a changé.
Les hommes n'ont plus besoin de moi, oui, l'époque a changé,
l'époque a changé.
J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le job s'habille plus en Prada. Le job s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses gosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le job s'habille plus en Prada. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui,
On remarque aussi que des métiers n'étant pas considérés comme des métiers ouvriers se voient eux aussi peu à peu transformés. L'exemple parfait, après la crise du Covid, on a vu le nombre de cadres changer leur méthode de travail en mettant en place le télétravail par exemple. Mais il est vrai que ce n'est pas le télétravail qui mettra fin à leur métier. En revanche, on a remarqué que les jours de télétravail, les employés ont tendance à faire de plus gros horaires, sans pour autant en déclarer plus. On pourrait presque considérer que cela a créé de la concurrence déloyale face à ceux qui décideraient de se rendre au bureau pour travailler.
C'est vrai que cette technologie a été une solution au moment de la crise sanitaire, mais on peut se demander si ce n'est pas aussi aujourd'hui responsable de conditions de travail dégradées. Puisque l'on peut travailler à distance, on peut contacter un employé en vacances pour une affaire urgente pour qu'il puisse la solutionner, la résoudre.
On peut dire que ça va à l'encontre du contrat de travail, mais en réalité, la personne peut simplement annuler un jour de congé, car dans notre société actuelle, le travail est tellement valorisé, que ce soit de manière économique ou bien car il nous permet une ascension sociale, ça peut être des raisons qui feront qu'ils ne refuseront pas le travail. Peu de gens, en fait, vont refuser de travailler à distance si cela leur donne des avantages au sein de leur entreprise. Ou simplement par peur de répercussions à l'avenir comme un licenciement. Et cette mentalité capitaliste, c'est elle qui empêche parfois la technologie d'être utilisée comme elle le devrait. En effet, on peut se dire que la technologie, si elle pousse à ce genre de pratique, que ce soit la dévalorisation du travail du temps de travail, ou bien la dévalorisation même de certains métiers avec la mécanisation, alors elle est forcément mauvaise. Cependant, la technologie ne l'est pas vraiment. On peut voir que la même technologie peut servir à renforcer le lien social avec les personnes âgées, ou bien conserver des liens familiaux forts à distance. Pour ce qui est de la robotisation, cela a permis de rendre le métier de beaucoup d'ouvriers plus facile, que ce soit en les assistant dans le port de charges lourdes ou bien à la gestion et à l'organisation des stocks en mettant en place des algorithmes calculant la nécessité de chaque produit en avance, ce qui a permis de réguler le travail et ne pas avoir des périodes durant lesquelles il y a une charge de travail trop éreintante et d'autres durant lesquelles on voit apparaître plus de licenciements par manque d'activité.
Oui, il est vrai qu'en observant ces différents cas, en effet, on remarque que la technologie, même si elle n'est pas neutre lors de son utilisation, elle n'est pas forcément mauvaise théoriquement. L'utilisation que l'on en fait, cependant, peut avoir de grands impacts sur les vies de tous, car elle nous a forcé ces dernières années, non seulement à repenser nos habitudes privées, mais elle domine aujourd'hui l'ensemble des métiers qui nous entourent. Et même si on tend à croire que la technologie est souvent utilisée pour supprimer des métiers pénibles, comme ceux des personnes travaillant en usine à la chaîne, on réalise rapidement, en se penchant sur le sujet, que ce ne sont pas les seuls qui sont aujourd'hui considérés comme modernisables et qu'ils ne sont pas indispensables.
Oui, c'est exactement ça. Notre volonté constante de rentabilité, d'optimisation et de productivité nous pousse toujours à trouver un moyen de rendre toutes les tâches plus rapides et efficaces. Et cela à moindre coût à toutes les échelles. On peut considérer qu'il est simple de remplacer des actions mécaniques sur une chaîne de production. Et il est vrai que c'est par cela que cette révolution a commencé. Mais ce ne serait-ce pas le cas uniquement par un manque de ressources technologiques par le passé. On voit que l'on a commencé par remplacer l'humain dans ses activités que l'on pourrait considérer comme étant physiques, car pendant de nombreuses années, aucune de nos technologies n'était intelligente et elle ne pouvait pas réaliser une tâche différente lors de chaque utilisation. C'était plutôt pour des travaux répétitifs en usine. Aujourd'hui, l'IA dont nous vous avons largement parlé, est capable de faire ce genre d'action, qui empêche les robots de remplacer les métiers considérés comme intellectuels. Et cela a commencé en remplaçant des métiers où il était plutôt question de calcul, ce pourquoi les machines sont plus efficaces. Et à l'heure actuelle, on remarque qu'elles sont capables d'innover. Elles sont capables de définir la création de produits en analysant les besoins des consommateurs ou bien en réalisant des parties de code pour les programmeurs. Ces métiers sont donc aujourd'hui aussi en danger que le métier des ouvriers à la chaîne. Et du coup, en fait, on peut se dire que pour les métiers du domaine financier, comptable, etc., les métiers sont peu à peu remplacés de par le fait que les ordinateurs le font de manière plus rapide et plus efficace et avec des erreurs bien plus faibles. Et une entreprise, du coup, a plus à gagner en fait en lançant ce genre de technologie plutôt qu'en utilisant celle d'un humain réel.
Oui, en effet, mais je tiens quand même à préciser que, par exemple, en reprenant l'exemple du code, je prends un exemple tout bête, ChatGPT, comme on le connaît tous maintenant, personnellement, moi, je l'utilise pas mal lorsque je code, et on se rend compte que, assez souvent, malheureusement, même sur du code, entre guillemets, assez basique, il va produire quand même des erreurs assez évidentes et assez bêtes. Donc, c'est un outil sur lequel on peut se reposer, mais quand même, il faut rappeler qu'il y a quand même des failles, encore aujourd'hui, qui sont assez présentes.
Chers auditeurs et chères auditrices, nous allons entamer la dernière partie de notre émission et j'espère que les paroles de mes camarades vous ont inspiré pour réfléchir à ce qui va suivre, car nous allons voyager un petit peu plus loin. Aujourd'hui, beaucoup de films inspirés du futur et du voyage dans le temps ont vu le jour. On peut prendre en exemple Retour vers le futur ou autre. L'humain a toujours cherché à s'imaginer le futur du monde et comment celui-ci serait plus tard. On a pu constater dans ces films que le futur rime avec technologie, donc voitures volantes, robots humains. Si je vous demande ce qu'évoque pour vous un monde futuriste, on a toutes et tous ces idées qui nous viennent en tête. Cependant, on a aujourd'hui un monde rempli de technologies qui se développent à vitesse grand V et qui sont devenues essentielles à notre quotidien. Comment imagine-t-on alors la suite ? C'est pour cela que nous allons aborder avec vous aujourd'hui le futur de notre monde déjà envahi d'innovation. Et quoi de mieux comme exemple qu'un bon film américain poussé aux extrêmes, que vous connaissez peut-être, Ready Player One. C'est un film de science-fiction, vous vous en doutez, et d'aventure, réalisé par Steven Spielberg, qui s'est inspiré du roman éponyme d'Ernest Cline. Pour rappeler le sujet abordé dans ce film, celui-ci se déroule dans un futur dystopique, en 2045, ce qui n'est pas si loin que ça. C'est un monde qui est en prise à de nombreux soucis, équivalents à ce que nous connaissons actuellement, c'est-à-dire la crise énergétique, de nombreux désastres causés par le réchauffement climatique, mais aussi la famine, la pauvreté, la guerre. Donc pour l'instant, pour un monde futuriste, on n'est pas si dépaysé. Cependant, ce sont les mêmes problèmes, mais avec des conséquences imagées et futures bien plus graves. Nous sommes alors plongés, au travers de ce film, dans un monde chaotique, au bord du précipice. La société est plongée dans une crise économique et énergétique qui entraîne ainsi une régression culturelle et sociale. Les populations se réfugient alors dans une réalité virtuelle immersive appelée l'Oasis, créée par James Halliday, un génie de l'informatique qui est devenu une légende pour cette création. L'Oasis est un système mondial de réalité virtuelle qui est accessible par l'intermédiaire de casques de réalité virtuelle et de dispositifs haptiques, comme des gants et des combinaisons. J'entends dispositifs haptiques, des objets permettant de ressentir physiquement au toucher ce que l'on vit dans cette réalité virtuelle. Dans l'Oasis, les utilisateurs peuvent créer des avatars personnalisés, socialiser avec d'autres joueurs, explorer des mondes virtuels et participer à des jeux vidéo et autres défis pour gagner des prix, et attention, en argent réel. Face au déclin du monde, la société devient au fil du temps une société virtuelle qui se sert de l'Oasis comme un exutoire et fuit ses problèmes. La population se réfugie dans ce monde où tout est possible, s'enfermant dans un cercle vicieux car plus personne ne se préoccupe ni ne s'occupe du monde réel.
Yeah. pour les plus intéressés,
ceux qui ne connaissaient pas et qui souhaiteraient peut-être regarder ce film à la suite de cette émission, on va faire un rapide résumé car ce n'est pas ce qui nous intéresse dans ce film. À la mort de l'inventeur Hallyday, une vidéo est diffusée dans laquelle il explique qu'il lèguera son immense fortune de environ 500 milliards de dollars ainsi que sa société à la personne qui réussira à trouver l'Easter Egg, donc l'œuf de Pâques en français, caché dans l'oasis. Pour cela, une immense chasse au trésor commence dans l'oasis où les joueurs doivent trouver 3 clés éparpillées dans le monde virtuel avant d'atteindre l'œuf. Le film suit Wade Watts, un jeune orphelin et bénéficiaire de la chasse au trésor qui doit affronter l'entreprise IOI et son PDG Nolan Cerento, voulant également mettre la main sur le trésor pour réaliser des projets maléfiques. Revenons à présent sur les bases principales du film. Nous sommes dans un monde poussé à l'extrême par les technologies et les problèmes environnementaux. Cela paraît insensé et inimaginable, un monde plongé dans une réalité virtuelle qui fuit les problèmes extérieurs et laisse le monde courir à sa perte. Mais si on y réfléchit, les problèmes vus dans ce film sont exactement les mêmes auxquels nous sommes confrontés actuellement. De plus, on peut voir que des mondes virtuels existent déjà, qu'on accède à l'aide de casques de réalité virtuelle. L'oasis n'est pas une invention. Ainsi, jetons donc un œil sur cette fameuse technologie. Donc, la réalité virtuelle a connu une nette évolution ces dernières années et elle tend à être de plus en plus accessible au grand public. C'est la raison pour laquelle elle s'avère désormais adoptée par bon nombre de sociétés, organisations et même gouvernements du monde entier. Nous avons de grands groupes comme Facebook qui cherchent à développer un tout nouveau concept, le métavers. Ce concept est considéré pour beaucoup comme l'avenir d'Internet et des réseaux sociaux. Il s'agit de faire un lien entre les réseaux sociaux et la réalité virtuelle. Le groupe de Zuckerberg prévoit notamment de dépenser 10 milliards de dollars pour accélérer le déploiement du métavers ou encore la création de 10 000 emplois en Europe pour ainsi aider au développement des technologies qui accompagneront cet espace virtuel. Beaucoup pensent que cela va signer la mort des réseaux sociaux. Tout le monde enfilera directement ses lunettes pour rejoindre le monde virtuel qu'il souhaite. Ces nouvelles technologies ont les mêmes bases que l'Oasis vu dans le film. Dans ce film, on peut conclure que la technologie n'a pas remplacé l'humain. Elle l'a surtout rendu complètement dépendant. Dans le film, l'humain est attiré par cette technologie révolutionnaire et laisse son monde derrière lui. Pensez-vous, face aux enjeux d'aujourd'hui, que notre façon d'y réagir nous entraîne tout droit vers une fin similaire ?
On voit tout d'abord que Apple vient de sortir sa nouvelle conférence et qu'ils veulent eux aussi maintenant sortir un casque de réalité virtuelle qui se rapproche énormément de celui dans le film. C'est-à-dire qu'il a été par exemple co-présenté avec Disney+, et dans le principe même du fait qu'on n'a plus besoin de sortir de chez soi pour aller au cinéma grâce au casque de réalité virtuelle. On a un son qui serait immersif, on a une impression de profondeur qui est créée grâce au casque de réalité virtuelle. Et dans ce cas-là, plus besoin de sortir de chez soi pour avoir des expériences telles que le cinéma. Et on peut se demander du coup si l'objectif de ce genre de technologie n'est pas forcément de nous faciliter la vie, mais simplement de réduire le lien social. Puisqu'au final, dans le film de Ready Player One, on remarque qu'à la fin, les gens en fait, sont heureux de vivre en dehors de l'oasis et que ça développe des liens sociaux plus forts que ceux qu'on peut créer virtuellement.
Oui, bien sûr, mais là, en reprenant l'exemple du casque d'Apple, il y a aussi une fonction, en dehors de la réalité virtuelle, une fonction de réalité augmentée, donc, qui permettrait, entre guillemets, de consulter du coup, les réseaux sociaux, mais sans être complètement immergé. Et puis, les liens tissés par les réseaux sociaux peuvent ensuite se concrétiser, j'ai envie de dire, dans la vraie vie. Puisqu'on peut entre guillemets très facilement se rencontrer, organiser une rencontre avec quelqu'un qu'on a par exemple rencontré sur les réseaux sociaux ou autour d'un jeu ou autre.
Mais après, par exemple, si on peut utiliser ce casque aussi comme avec la réalité virtuelle, je vois pas pourquoi on préférait alors rencontrer quelqu'un dans la vraie vie plutôt que dans une, je sais pas, une interface, un monde où nous-mêmes et l'autre utilisateur pourraient se rencontrer, car au final on ne le connaît pas, peut-être par sécurité, on serait plus apte peut-être à se diriger vers ces autres fonctionnalités.
Et même en fait je pense par facilité, on le remarque dans le film en fait, que les gens ont la possibilité d'entretenir du lien social puisqu'ils vivent clairement dans des bidonvilles avec ils sont entassés les uns sur les autres et au final personne ne cherche à rencontrer les gens avec qui ils vivent. Tout le monde se renferme dans cette réalité virtuelle et je pense que c'est aussi un moyen en fait d'oublier un peu les problèmes qu'il y a dans la société actuelle puisqu'on s'évade dans une réalité où il n'y a pas de problème apparent, que ce soit l'écologie ou bien la santé ou ce genre de choses. Et c'est un peu aussi, je pense, l'objectif, c'est camoufler la réalité en fait avec des casques comme ça.
Oui, bien sûr. Puis après, à mon avis, de mon point de vue, on n'est pas encore arrivé à ce qu'on appelle l'immersion complète, c'est-à-dire que on va littéralement se déconnecter complètement de la réalité. Et par exemple plonger dans un jeu ou autre où on va contrôler complètement et sciemment on va être finalement le personnage qu'on incarne. Donc pour moi la réalité virtuelle n'a pour l'instant pas vraiment encore vraiment d'emprise sur la réalité. Après est-ce qu'on arrivera un jour justement à cet état d'immersion complète? Pas à mon avis ou tout du moins pas dans l'immédiat.
Aussi, on voit dans le film, effectivement, la population fuit les problèmes auxquels ils sont confrontés, justement, dans ce monde virtuel. Et effectivement, ne cherche plus le lien social, parce que peut-être que ça peut, justement, te ramener à la réalité des choses. Et tu veux fuir, effectivement, ces problèmes. Mais est-ce que c'est vraiment une volonté de la population? Parce que effectivement, si on développe une IA capable, avec toutes ses possibilités, c'est quelque chose au final qui t'implique dans une sorte d'addiction et après tu as du mal à en sortir. Mais est-ce que c'est forcément une volonté de notre part ou juste effectivement c'est une addiction créée par toutes ces technologies à nous enfermer dans ce genre de monde, on va dire, plus simple, plus facile?
Après, on peut voir aussi dans le film, en fait, où on parle du fait que, à force, comme tu le dis, d'avoir rendu les gens accros à cette technologie, après, on peut leur imposer des éléments dans cette technologie, comme du coup le méchant, entre guillemets, dans le film, qui voulait imposer à tout le monde d'avoir un champ de vision réduit par des nombreuses publicités un peu partout dans notre champ de vision, dans la réalité virtuelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on est prêt aussi à accepter ou bien est-ce qu'on préfère vivre dans le monde réel, dans un monde où on choisit en fait ce qu'on voit et pas qu'on paye, parce qu'au final la réalité, même si il y a des achats à faire, dans la réalité virtuelle on se rend compte que tout sera payant. Et est-ce que c'est ça qu'on cherche aussi dans la réalité virtuelle ou est-ce qu'on cherche juste un monde alternatif au nôtre?
Mais après, c'est sûr que la perspective d'un monde alternatif, c'est quelque chose qui nous fait un peu briller les yeux, j'ai envie de dire. Mais est-ce que ça va réellement attirer les gens? Est-ce que c'est quelque chose qui va réellement, comme on le dit, comme on le voit dans le film, enfermer entre guillemets toute une population, toute une génération finalement, puisque on se rend compte que comme on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui finalement est devenu banal, qui du coup s'est rendu très populaire et qui a fait que tout le monde entre guillemets y participe et on devient presque, comme on l'a dit, accro. Moi, on peut citer par exemple l'exemple un peu farfelu d'un animé qui s'appelle Sword Art Online, qui parle exactement du coup, qui est dans justement plein de sujets, qui parle du coup de réalité virtuelle, mais là de réalité virtuelle en immersion complète. C'est-à-dire, comme j'ai dit précédemment, on va se retrouver littéralement plongé donc en dehors de notre corps, et là on va retrouver du coup tous les joueurs d'un certain jeu dans cette réalité virtuelle qui vont se retrouver bloqués à l'intérieur de cette réalité sans pouvoir en sortir à moins de finir le jeu. Donc on peut se dire que c'est peut-être un des risques entre guillemets, si on peut voir les mauvais dessins de ce côté-là de la réalité virtuelle future.
Effectivement, après, pour répondre tout simplement à la question et un peu finaliser la chose, pour moi effectivement on n'est pas parti vers un monde similaire à l'Oasis, parce que la réalité virtuelle s'est développée, mais pour l'instant, effectivement, on voit déjà l'IA qui prend une énorme place. Donc la réalité virtuelle, effectivement, c'est un échappatoire, mais on voit beaucoup plus pour les jeux vidéo. Et c'est pas l'essentiel, on va dire, notre monde actuel, on va dire. Je trouve pas qu'on soit dans ce monde-là. En plus, il y a aussi le côté économique. forcément, s'acheter des casques, c'est pas offert à tout le monde. Donc bon, c'est quand même une expérience qui est limitée.
Oui, clairement, surtout quand on voit que le nouveau casque d'Apple va coûter plus de 3 800 euros, c'est sûr que ce n'est pas une expérience qui va être donnée à tout le monde. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine sur Graphite pour les échos de l'innovation.